Bonjour, c'est l'un des écrivains les plus populaires de France que nous accueillons aujourd'hui, Bernard Werber, bonjour.
Bonjour.
Bernard Werber, ceux qui n'ont pas lu vos livres en ont forcément entendu parler un jour ou l'autre. On parle du cycle des fourmis, les thanatonautes, les anges ou encore les dieux. Et je rappelle aux auditeurs de France Bleu qu'ils peuvent vous poser leurs questions au 0810 055 056. Alors la tradition veut dans France Bleu Midi que l'on commence par votre portrait, Bernard Werber, et aujourd'hui c'est Olivier Paulet qui s'en charge. Bonjour Olivier.
Bonjour Olivier. Bonjour Bernard.
Bonjour. Alors,
quand vous m'avez dit, Olivier, que l'on recevait Bernard Werber, j'ai tout de suite pensé à une mauvaise blague, vu que son livre en est truffé. Je dis, on va recevoir le gars qui vient de sortir le rire du cyclope. Mon œil. Bah si, c'est vrai. Le vrai Bernard Werber qui sort un livre tous les ans, le premier mercredi d'octobre. D'ailleurs, quand j'entends la sirène à midi ce jour-là, j'ai toujours peur qu'il y ait le feu ou la guerre. Mais non, c'est juste pour nous annoncer que le dernier Werber vient de sortir. Alors, tout comme moi, il s'est posé la question, qui c'est qui les invente, les blagues? Le PDG de Carambar? Les vanniers qui fabriquent des vannes? Eh non, elles se fabriquent au cours du temps. D'ailleurs, la toute première, d'après Bernard, est égyptienne et date de 3500 ans avant Dalida. Et puis après, elle s'accommode aux époques. Chirac qui a dissous l'Assemblée, Virenque qui nous parlait de ses analyses, et puis des moins drôles avec Domenech qui nous lisait celle des joueurs en Afrique du Sud, ou alors Carla qui s'est mise à chanter, enfin bref. Alors Bernard nous dit dans son livre que rire c'est juste humain. Bizarre hein, pour cet auteur qui nous a régalé sur sa trilogie consacrée à la vie des fourmis. Sachez, monsieur Werber, qu'elles se sont réunies par milliers pour nous trouver la plus belle vanne du siècle, comme quoi la fourmi micro-ondes. Mais alors, pourquoi on rit, me demandait hier mon psy. Oui, je suis allé le voir parce que j'ai un souci. Il s'avère que ma femme se prend pour moi, monsieur le psy. Alors il me rétorque, amenez-la moi. Je lui dis, je suis là. Et puis les meilleures blagues sont à 80% pipi, caca, sur le sexe, les ouais. Femmes ou encore se moquer des étrangers. Alors je vais terminer sur celle des Noirs qui disent ironiquement sur le sexe des Blancs que les plus courtes sont les meilleures.
Merci beaucoup Olivier Paulet, on ira vérifier. Bernard Werber, une réaction sur ce portrait?
Il a lu le livre. Ça fait toujours plaisir quand on est interviewé pour des journalistes qui ont lu le bouquin. En France, c'est pas si fréquent que ça, donc merci d'avoir lu.
Ouais, on aura peut-être l'occasion d'y revenir.
Vu ses remarques, j'ai compris qu'il a vraiment saisi l'esprit du livre.
Il l'a bien lu. Alors, l'esprit du livre, l'histoire de ce rire du cyclope, en quelques mots.
C'est un polar. Ça fonctionne au début comme un Agatha Christie ou un mystère de la chambre jaune, c'est-à-dire un meurtre en pièce close. Et la personne qui était à l'intérieur est morte en riant. Et donc, la problématique, c'est peut-on mourir de rire? Et mes deux enquêteurs, qui sont Isidore et Lucrèce, vont remonter progressivement la vie de ce comique qui s'appelait Le Cyclope, découvrir sa vraie vie, et s'apercevoir que les comiques ont parfois des vies assez angoissantes, et découvrir en même temps tout le monde du comique et le monde des blagues, qui est un monde très peu connu, parce qu'on considère que les blagues, c'est un art léger, un art pour les enfants, alors qu'en fait, il y a quand même des blagues très puissantes qui peuvent changer le monde, et des blagues qui peuvent même changer une société. On a vu dans l'histoire, je cite dans le Rire du Cyclope, tous les moments où des blagues ont modifié complètement les événements.
Ce monde des comiques, vous avez enquêté dessus? Vous êtes allé gratouiller?
Oui, je suis allé voir plusieurs comiques, je vais voir les spectacles et après, à la fin, je vais discuter avec eux. Et après, on va déjeuner, on va dîner et puis ils me racontent les coulisses.
Alors, et ils se lâchent sur les copains.
Ils se lâchent sur les copains, mais ils me racontent aussi, de ce que j'ai bien compris, dans le monde des comiques, il y a trois couches. Il y a l'aristocratie, c'est ceux que vous voyez à la télé qui sont très riches, très puissants et très influents. Après, il y a une sorte de bourgeoisie, c'est ceux qui arrivent à tourner sans faire d'autres métiers. Et puis après, il y a la plèbe, ceux qui sont tous les velléitaires qui veulent devenir comiques, c'est quand même 15 000 personnes qui louent des petites salles, qui se débrouillent comme ils peuvent et qui vivent parfois dans la misère. Et tous ces trois groupes sont en conflit, en compétition. Et dès qu'il y en a un qui réussit, les autres se disent « zut, il me prend ma place ». Donc, je voulais parler de cette guéguerre qu'on ne voit pas, parce qu'on imagine tout le temps que les comiques sont des gens qui ne font que plaisanter et qui sont tout le temps heureux, alors qu'en fait, ils vivent en rivalité les uns avec les autres et ils se volent les blagues, ils se tirent dans les pattes et ils sont pour la plupart des gens très sensibles et très angoissés.
Alors, au-delà des comiques, il y a bien sûr une réflexion sur l'humour, sur la genèse de l'humour.
Oui, parce que l'humour ne sert à rien. Ça sert ni à nous nourrir, ça sert pas à faire la guerre, ça sert pas à conquérir des territoires. Ça, en théorie, on n'a pas besoin de rire. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi nous rions. Et je me suis aperçu que c'était une compensation de notre angoisse naturelle existentielle, parce que nous avons conscience que nous allons mourir, alors que la plupart des animaux n'ont pas conscience qu'ils vont mourir, donc n'ont pas besoin du rire pour se protéger. Mais toutes ces connaissances sur le rire que j'ai accumulées, je voulais les faire passer à travers un polar, parce que précisément je voulais pas faire un livre de philosophie ou un livre didactique, je voulais juste montrer une enquête qui va faire découvrir les coulisses de ce monde presque sans qu'on s'en aperçoive, et qui va nous apporter des connaissances historiques sur l'humour presque sans qu'on s'en aperçoive. C'est le principe du roman, ça doit être ludique, c'est l'énigme qui est importante, et là l'énigme c'est: peut-on mourir de rire?
Et sur les connaissances historiques, vous faites remonter l'humour à quand?
Alors, il a dit aux Égyptiens, en fait c'est aux Sumériens. 3500 ans avant Jésus-Christ.
Vous étiez voisins presque.
Ouais. Par rapport à nous.
Par rapport à nous.
Sumer, c'est plutôt du côté de l'Irak.
Et, oui, mais c'est le Proche-Orient.
Voilà, c'est le Proche-Orient. Mais en fait, si on a trouvé la première blague d'origine sumérienne, c'est tout simplement parce que les premiers textes sont sumériens. Donc il existait forcément avant des blagues orales dont on a perdu la trace. Et la première blague, je peux vous la citer si vous voulez, mais elle n'est pas drôle, vu que, comme le vieux vin, vous savez, ça, c'est tellement ancien que ça a perdu du sens. Donc cette blague, je la dis littéralement, c'est: qu'est-ce qui n'arrivera jamais, point d'interrogation, qu'une femme s'assoie sur les genoux de son mari et se mette à péter? Donc ça, c'est à 3500 ans avant Jésus-Christ, et à l'époque, ça devait faire gondoler de rire toute la population.
Moi, ce qui m'a amusé, entre autres, c'est une petite phrase: les Néandertals ont disparu parce qu'ils n'ont pas découvert l'humour au deuxième degré. C'est une supposition?
Oui, vu que c'est le monde oral, j'étais obligé de faire des suppositions sur tout ce qui existait avant le monde écrit. Donc j'ai inventé une première blague orale préhistorique, et puis une première blague qui se passe chez les Australopithèques, et après qui se passe chez les Cro-Magnons, et avant d'attaquer mes vraies sources, qui sont des sources réelles d'ailleurs sur tout ce qui est l'humour. Mais le deuxième degré, je pense qu'il y a réellement des civilisations qui ont disparu parce qu'il leur manquait un niveau de conscience ou de spiritualité. Alors que ça soit expliqué par l'humour, c'est un peu ce que j'ai utilisé comme gadget, mais il y a un moment, quand il manque un petit niveau, on se fait avoir. Oui.
Bernard Werber, vous restez avec nous, bien sûr. Nos auditeurs peuvent vous appeler au 0810 055 056.
Abonnez-vous gratuitement au podcast de France Bleu Midi sur francebleu.com. Le week-end, Jean-Pierre Bergeon vous emmène au cinéma.
Avec Guillaume Canet et François Cluzet pour Les Petits Mouchoirs, un sacré film de potes, et aussi l'admirable Beautiful avec Javier Bardem, avec des places à gagner, et en bonus, Franck Dubosc pour la sortie DVD de Camping 2, un DVD à gagner également.
Le Mag Ciné, demain à 13h sur France Bleu.
Bonjour, c'est Evelyne Adam. Cela fait 10 ans que vous êtes fidèle à la compile. Merci. 10 ans de chansons, de messages, d'émotions, de souvenirs, de sourires partagés. La compile poursuit son chemin. Alors que vous soyez sur la route ou chez vous, passez en chanson votre message à ceux que vous aimez. La compile, c'est toute la semaine à 21h sur France Bleu.
Les plus belles chansons françaises sont sur France Bleu.
Enfant.
Daniel Balavoine, Mon fils, ma bataille. Vous êtes bien sûr sur France Bleu et c'est Bernard Werber qui est avec nous aujourd'hui.
France Bleu Midi, 0810 055 056.
Et une question pour vous, Bernard Werber. C'est David, auditeur de France Bleu Touraine. Bonjour David.
Bonjour.
Nous vous écoutons.
D'abord, bonjour Monsieur Werber.
Bonjour.
Et merci pour tous vos écrits parce qu'en fait, je vous suis en fait depuis très 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 longtemps. J'ai commencé avec Les Fourmis. Le premier livre en fait que j'ai lu, c'était Les Thanatonautes et j'ai plongé tout de suite dans votre univers, quoi.
Ben merci.
Que je trouve vraiment extraordinaire et pour moi, vous êtes le meilleur écrivain français actuel, quoi.
Ben, je vous remercie encore. Je ne sais quoi dire. Je rougis devant le micro, mais ça se voit pas.
David, vous avez une question pour Bernard Werber?
Ouais. En fait, ma question porte sur la page Facebook de Bernard Werber. Mm-hmm. En fait, oui, Marc commence le plan du nouveau roman pour octobre 2011.
Oui.
Et je voulais savoir justement sur quoi porter ce roman.
Bah, malheureusement, c'est ultra secret pour une raison simple, c'est que par moment, j'écris un début de roman et j'y renonce à mi-parcours pour faire un autre roman. Donc là, si je vous en parlais et que je vous livrais pas le bon, ça serait un peu gênant. Mais de manière générale, je préfère pas en parler parce que je suis un peu superstitieux. Mais ce que je peux vous dire, c'est que j'avais une discussion récemment avec un écrivain et je lui disais, la sortie, c'est une angoisse. L'écriture vers la fin, c'est une angoisse. Et quel est le moment où on n'est pas angoissé qu'on est écrivain? Et on arrivait à l'idée, c'est le moment où on fait le plan, on pose l'histoire. Donc actuellement, vu que je suis en train de poser le plan et l'histoire de ce qui sera peut-être le prochain roman, c'est le moment où je me régale le plus, parce que c'est le moment où tout est possible et je crée les personnages, et je crée le suspense et je crée l'aventure, et ils naissent. Et finalement, c'est le plus grand plaisir qu'on a en tant qu'auteur, c'est ce petit moment où il y a le fœtus du roman qui est en train d'apparaître.
Bernard Werber, David disait que vous étiez à ses yeux le meilleur écrivain français. Vous vous situez où, vous, dans le monde littéraire français, dans la littérature française aujourd'hui? Parce que vous me regardez avec un petit air inquiet, avec un petit sourire. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui vous boudent, qui disent
oui,
« Oh, Werber, c'est secondaire ».
Je ne fais pas partie de la cour de Versailles de la littérature, parce que je n'ai jamais souhaité y en faire partie. Et ce qui m'intéresse, c'est le public, c'est des gens comme David. C'est-à-dire, moi, j'écris pour les lecteurs, je n'écris pas pour les médailles en chocolat.
Pas un peu pour vous, non?
Alors, si, mais au moment où j'écris, si j'écrivais que pour moi, je crois que je tournerais en rond. Il y a un acte au début de introspectif, mais rapidement, il est tourné vers les autres. Je crois qu'il faut, c'est un art qui doit être universel, populaire et généreux. Et donc, ces trois facteurs n'étant pas les facteurs de sélection de la littérature parisienne, il est, en toute logique, je touche plus facilement et le grand public, et les jeunes, et les gens pionniers, plutôt que les gens, l'élite qui adore les phrases compliquées dont on ne comprend rien et qui donnent souvent les prix littéraires.
Alors ce rapport avec vos lecteurs, vous le poussez assez loin, puisqu'ils ont contribué en quelque sorte à une partie de ce livre. Vous avez fait appel à eux?
Oui, je leur ai demandé sur mon site internet bernardwerber.com de me donner ce qu'ils estimaient les meilleures blagues du monde. Et donc on a obtenu 60 000 blagues. Sur les 60 000, on en a sélectionné 300 et j'en ai pris à peu près une dizaine qui me servent à illustrer un peu la diversité des blagues et l'historique des blagues dans le roman. Ils arrivent, c'est-à-dire au milieu de l'enquête de Isidore et Lucrèce, tout d'un coup, il y a une coupure et on voit une blague qui arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, mais en fait qui offre une autre vision de l'enquête, qui montre comment fonctionne l'humour.
Alors moi, je vais vous dire une chose sur ces blagues, j'étais frustré. Je vais vous dire pourquoi, parce que je connaissais les trois quarts. Suis-je normal, docteur?
Mais oui, mais c'est fait exprès, j'ai pas cherché des blagues inconnues, c'est pour ça que j'ai demandé aux lecteurs qui me citent les blagues qui font le plus rire, et ils m'ont cité en effet les blagues qui circulent actuellement, et on voit bien comment elles évoluent. Certaines blagues, j'ai retrouvé des sources qui remontent aux Grecs. C'est des blagues qu'on sort maintenant sur les politiciens actuels et elles étaient déjà posées à l'époque d'Aristophane et elles servaient à se moquer des dirigeants de leur époque. Elles n'ont fait que muter et s'adapter. C'est ça que je voulais montrer. En fait, une blague est comme un virus. Il évolue, il circule oralement d'une personne à l'autre et il mute en fonction du temps et des outils qui existent.
France Bleu Midi, 0810 055 056.
Sylvie, auditrice de France Bleu Hérault, nous appelle. Bonjour Sylvie.
Bonjour.
Nous vous écoutons.
Oui, voilà. Alors, j'appelais, je connais pas les livres de, enfin, je les connais comme ça de physiquement, mais je voulais surtout le remercier parce que j'ai un ado qui a 17 ans et demi et qui lisait énormément avant de connaître les mangas. Donc il est tombé dedans pendant 3 ans, et l'année dernière, ou il y a 2 ans, je sais plus, son grand frère lui a offert alors la série des fourmis et puis d'autres bouquins de vous, et depuis il a repris le goût de la lecture.
Ah,
donc
c'est
moi
formidable.
Je suis ravie. Alors je voulais surtout vraiment, voilà, je voulais surtout témoigner parce que je pense pas que je sois la seule, je pense pas que Augustin seul.
Donc, ah bah, on était coupé, mais on a entendu l'essentiel. Donc, Sylvie nous disait qu'elle a découvert un vaccin anti-manga. Ce vaccin anti-manga s'appelle Bernard Werber.
Ah, je suis très content de ça parce qu'en effet, l'un de mes combats, c'est qu'il y ait de plus en plus de gens qui lisent et surtout de plus en plus de jeunes qui lisent. Et pour ça, je crois qu'il faut se rappeler qu'un livre, c'est un outil de plaisir, un outil de divertissement et surtout pas un outil de snobisme. Et je crois qu'à un moment, la littérature française s'est fourvoyée dans une littérature nombriliste dans laquelle il n'y avait que des états d'âme d'auteurs et aucune intrigue. Et parce que j'avais envie de changer les choses, justement, j'ai fait un retour à l'histoire, le retour au conteur. Je crois que l'essence même de notre travail, c'est justement à l'époque préhistorique, le type qui, au coin du feu, racontait les aventures des ancêtres, racontait les chasses et faisait rêver les autres. Et c'est ça le vrai sens de notre métier, et à travers ça, transmettre des informations. Et c'est peut-être pour ça que j'arrive à récupérer les lecteurs perdus par la littérature, je vais employer le mot chiante, et par qui sont allés vers la bande dessinée et les dessins animés et vers Internet, et qui sont perdus de la littérature, et moi j'essaie de les récupérer. Je crois que de toute manière, plus il y aura de gens qui lisent, plus il y aura de gens intelligents. Et plus il y aura de gens qui lisent, plus il y aura de jeunes qui pourront se poser de nouvelles questions plutôt que juste subir la télévision qui leur met à tous les mêmes informations dans la tête.
Alors Bernard Werber, la lecture, ça peut aussi tenir à quelques petits détails. Et moi, il y en a un, je voulais absolument vous poser cette question. Vous avez 3 dauphins dans votre livre. Ils s'appellent John, Paul et Ringo. Et pourquoi John, Paul et George? Pourquoi pas? Pourquoi John, Paul et Ringo, ces trois-là?
George, c'est le requin.
Ah, c'est le requin.
Oui, il y a 3 dauphins et un requin. Donc le dernier.
Donc j'ai mal lu.
Voilà. Non, mais c'est vrai que sur le coup, vu que c'est les prénoms. Non, il y a 3 dauphins et. Oui, ça c'était.
Donc
une
le requin, c'est George. Donc Paul, Ringo, les dauphins, il nous en manque un.
Il y a John, Paul et Ringo. Et... Enfin, il y a 3 dauphins. Enfin, les 4 forment les Beatles. Voilà.
Voilà.
C'est ça que vous vouliez dire. Non, ils forment. C'est-à-dire que mon héros, Isidore, l'enquêteur, est un être qui vit seul dans un château d'eau et qui a fabriquer une sorte d'objet étrange, c'est une piscine dans laquelle il nage avec des dauphins et des requins, et c'est ça qui lui apporte la sérénité.
Et il a bien de la chance. Bernard Werber, pour le rire du cyclope, il reste avec nous pendant le journal et l'histoire du jour.